Bonsoir à tous. Donc, c'est notre dernière séance, donc plutôt, on va essayer de la faire décontractée. En sachant que j'aimerais bien quand même revenir sur des points qui me paraissent importants sur le trouble maniaco-dépressif, aujourd'hui appelé trouble bipolaire. Et puis, laisser une grande partie de l'exposé, je dirais, aux questions. Parce que bah, je crois que c'est le thème d'aujourd'hui, hein, questions-réponses. Alors, il y a des données qui viennent de sortir sur les troubles bipolaires et qui sont quand même assez impressionnantes. Alors, je ne sais pas si elles demandent à être vérifiées, mais ce qui est dit actuellement, c'est que 60% des déprimés seraient des bipolaires potentiels. Donc, on s'aperçoit que le pourcentage de patients bipolaires est de plus en plus impressionnant, de plus en plus élevé. Et je dirais que ça peut s'expliquer aussi par une utilisation un petit peu, peut-être trop large, des médicaments antidépresseurs qui peuvent favoriser chez certaines personnes des virages de l'humeur, des états de surexcitation. À savoir que vous savez qu'il y a 53 millions de boîtes d'antidépresseurs qui sont vendues chaque année en France. Et si on fait une photographie à un instant T, par exemple, ben, on s'aperçoit qu'il y a à peu près presque 10 millions de personnes qui prennent un antidépresseur, ce qui est énorme. Et je dirais que ces chiffres ben, reflètent à la fois du problème majeur que représente aujourd'hui l'état dépressif, et puis permettre d'expliquer le fait qu'il y ait comme ça des taux très élevés de bipolarité, compte tenu du fait qu'un certain nombre de patients donc, vont être dévoilés ou vont être précipités dans le trouble maniaco-dépressif, dans le trouble bipolaire. Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est qu'on insiste de plus en plus sur l'influence des stress sur la bipolarité, sur l'apparition d'un trouble bipolaire. On a beaucoup parlé d'hérédité. On a relativisé aussi la place de l'hérédité, en sachant que si on est porteur de la maladie, on a un risque quand même qui est assez faible de transmettre cette maladie à ses enfants. Et on considère que la moyenne, c'est 5%, en sachant que dans les formes précoces, le pourcentage est beaucoup plus élevé, le risque est plus important lorsqu'il y a un début précoce du trouble. Ça, c'est donc une donnée importante. Et je dirais sur cette vulnérabilité, donc l'environnement joue un rôle important. Et il y a encore des données qui sont récentes qui montrent que les situations stressantes diminuent la qualité de l'observance et donc la qualité du suivi, mais ont un effet aussi négatif sur la réponse thérapeutique, c'est-à-dire que chez des personnes qui sont observants, qui prennent régulièrement leur traitement, le fait d'être confronté à des situations de stress répétées diminue considérablement l'efficacité des médicaments antidépresseurs, ou tout du moins rallonge le délai, la durée pour obtenir un état de rémission ou de guérison. On va plutôt parler de rémission. Donc ça, c'est quand même une donnée importante et c'est des articles récents qui ont été publiés sur ce sujet et qui donc soulignent quel peut être l'impact du stress dans l'évolution de la maladie bipolaire, en sachant qu'en amont, ces facteurs de stress peuvent faire éclore la maladie et que après reconnaissance du diagnostic, après l'instauration d'un traitement, la persistance de situations stressantes va, je dirais, remettre en cause l'efficacité thérapeutique en diminuant donc cette efficacité des médicaments thymorégulateurs. Ça, c'est une donnée qui est assez récente et qui me paraît quand même importante parce qu'elle montre bien que la prise en charge ne se limite pas simplement à des médicaments, mais aussi à réorganiser sa vie. Et bien sûr qu'on est tous confrontés à des stress, mais certains peuvent être contrôlés. Et ça, c'était quand même une donnée assez intéressante. Les données, bien sûr, inquiétantes sont les données qui relèvent de l'épidémiologie, à savoir que l'OMS positionne la maladie maniaco-dépressive comme l'un des plus grands fléaux au plan mondial, chez le jeune en particulier. Et ça, c'est quand même aussi une donnée importante. Parmi les 10 plus grandes pathologies et fléaux, quand on parle de fléaux, c'est les accidents de la route, c'est les automutilations. Enfin, bon. Et ça aussi, c'est une donnée à rappeler. Et c'est quand même une pathologie qui a été très, très sous-évaluée et qui reste encore méconnue, sous-évaluée. Il y a deux jours, j'étais aux Assises. Et je devais donc rapporter une expertise pour quelqu'un qui manifestement était bipolaire. Et ce mis en examen, enfin l'accusé, avait un trouble qui existait depuis toujours. Son père était maniaco-dépressif, traité par électrochoc et par lithium. Sa grande tante s'était suicidée. Sa grand-tante maternelle et sa tante maternelle et sa grand-mère avaient fait plusieurs tentatives de suicide et de dépression, ce qui fait qu'on avait des antécédents des deux côtés, du côté maternel et paternel. Durant l'enfance, il avait ce qu'on appelle présenté un syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention. On en a parlé, vous savez que le syndrome d'hyperactivité est fréquemment rencontré chez des patients qui vont ensuite déclencher un trouble maniaco-dépressif et que cet état d'hyperactivité est, selon les pédopsychiatres, une forme juvénile du trouble maniaco-dépressif. Et à savoir que c'est un diagnostic quand même qu'il est important de faire. Or, bien sûr, cette personne qui avait été accusée avait présenté ce trouble pendant plusieurs années, avait été traitée par un psychiatre, mais le diagnostic n'avait pas été posé à l'époque, car c'était il y a une quarantaine d'années. Et on ne parlait pas encore de syndrome d'hyperactivité. Et puis, à l'âge de 29 ans, il y a eu une cassure dans sa vie, avec une vie affective tout à fait chaotique, avec trois enfants de trois lits différents, avec des emplois à droite et à gauche, avec plusieurs hospitalisations, avec un suivi pendant 15 ans, avec des troubles dépressifs très, très intenses, très, très sévères, avec des périodes d'euphorie qu'il décrit spontanément et qui étaient associées à la consommation de toxiques, eh bien, j'ai eu un mal fou, et je ne sais pas d'ailleurs quel a été le verdict, j'ai eu un mal fou à convaincre l'avocat général, à convaincre les assesseurs du président qui manifestement n'avaient jamais entendu parler de cette maladie et du fait que cette maladie qui n'avait pas été diagnostiquée a été responsable aussi de cette toxicomanie ponctuelle, était responsable de cette désinsertion sociale, familiale, professionnelle, et que si le diagnostic avait été posé beaucoup plus précocement, il est probable que cette personne ne se serait pas retrouvée aux assises. Alors, je ne veux pas dramatiser, à savoir que tous les bipolaires ne sont pas des hors-la-loi, et que en termes de dangerosité, il y a quand même des chiffres qui sont importants, c'est-à-dire que 3% des personnes qui présentent des troubles mentaux sont dangereux. 3%. Bon. Alors vous allez me dire que c'est un chiffre qui est important, mais ce n'est pas un chiffre plus important que celui de la population générale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aussi avoir une vision dramatique en disant « Mais attendez, un bipolaire, il a des antécédents judiciaires. » Oui, il peut avoir des antécédents judiciaires, mais ce qui est important, c'est de dire aussi aux jurés et aux hommes de loi que c'est un trouble qui est accessible à des mesures thérapeutiques et qu'on a une solution thérapeutique à proposer. Bon. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve face à des personnes qui n'auraient jamais dû se trouver en prison, qui l'ont été parce qu'il y a eu ce problème de toxique, parce qu'il y a eu des passages à l'acte, mais s'ils avaient été traités, s'ils avaient été reconnus, eh bien on n'en serait pas là et on en serait de la même manière que vous avez un certain nombre de personnes qui sont complètement désinsérées au plan social, professionnel, familial, qui n'ont jamais fait l'objet de soins, pour lesquels le diagnostic n'a jamais été posé, et qui ont été victimes de leurs troubles. J'ai encore en mémoire, parce que c'est récent, le cas d'un médecin qu'on a expertisé à la demande donc, du Conseil de l'Ordre. Et ce médecin, malgré le fait qu'il était médecin, n'a jamais bénéficié d'une prise en charge structurée. On ne lui a jamais dit qu'il était maniaco-dépressif. Et pourtant, il avait été hospitalisé un certain nombre de fois, dont dans des hôpitaux psychiatriques. Et il avait fait des états délirants, mais qui n'ont pas été reconnus comme des manies délirantes. Et on l'a traité ponctuellement, sans notion de prise en charge au long cours. Et puis ensuite, on a mis en place un traitement par les sels de lithium. Et puis là, comme il avait pris plusieurs kilos, il avait été voir un professeur qui lui a dit, comme ça, d'arrêter brutalement le lithium. Il a arrêté brutalement le lithium. Et puis, 2 mois après, il se retrouvait à nouveau en état d'excitation maniaque, avec 2 hospitalisations en HDT. Et puis, un signalement au Conseil de l'Ordre, avec donc un risque pour sa carrière. Alors, on s'aperçoit que là, il y a un problème qui reste majeur, qui est celui du diagnostic, qui est celui de cette méconnaissance, mais je dirais qu'on est tous concernés, hein, qu'on passe tous, bien sûr, à côté. Mais là, le travail qui a été fait par France Dépression, par Argos 2001, par Argos 2002, par l'UNAFAM, par d'autres associations, une lueur d'espoir, il y a des associations qui sont montées, il y a une association qui s'est montée à Toulouse récemment. Eh bien, je dirais que ce travail qui est effectué par les associations va permettre de sensibiliser un petit peu plus la société et puis faciliter, je dirais, la reconnaissance du trouble et précocement, parce que je crois qu'il y a un enjeu très important et que dès l'adolescence, on doit être en mesure de pouvoir faire le diagnostic d'un trouble qui peut conduire le sujet à sa perte si on considère que le taux de mortalité est 3 fois plus important que celui de la population générale lorsque les sujets ne sont pas traités. Donc il y a vraiment un enjeu qui est majeur. Et je pense que là, on commence à en parler. Il y a un certain nombre d'articles dans la presse. Il y a eu plusieurs reportages à la télévision. Et que tout d'un coup, il y a des gens qui se réveillent, disent « Tiens, qu'est-ce que c'est un trouble bipolaire ?» Bon. Or, cette pathologie, elle a toujours existé, elle a toujours été très invalidante. Aujourd'hui, on a les moyens de la reconnaître plus précocement et de mettre en place un traitement plus adapté, d'autant plus qu'on a maintenant à notre disposition plusieurs types de thymorégulateurs qui sont faciles, je dirais, à manier, qui peuvent être associés les uns aux autres, sauf certains, mais et qui, bien sûr, vont permettre de faciliter le suivi thérapeutique. Alors voilà, je voulais vous apporter ces quelques précisions parce qu'elles sont importantes, en insistant aussi sur le rôle que de la psychoéducation, des thérapies comportementales, des thérapies interpersonnelles qui viennent compléter le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, je dirais... Ne constitue qu'une partie de la prise en charge. Quand on se réfère à des documents il y a une vingtaine d'années, le traitement reposait sur le lithium et c'est tout, c'est-à-dire que c'était le traitement biologique de la maladie la plus biologique de la psychiatrie. Aujourd'hui, on a un autre regard sur la maladie bipolaire. Ce n'est pas la maladie la plus biologique de la psychiatrie. Je pense que beaucoup de maladies sont expliqués par une vulnérabilité génétique, mais aussi par des facteurs environnementaux, et que ce soit des troubles de la personnalité, que ce soit la schizophrénie, que ce soit les troubles maniaco-dépressifs, que ce soit les troubles obsessionnels, on se retrouve, que ce soit la maladie d'Alzheimer, on se retrouve dans des schémas à peu près comparables. Donc, il faut continuer à poursuivre l'action qui a été... commencer par France Dépression, par Argos, et puis continuer donc ce travail de déstigmatisation, à savoir que, je le disais déjà la dernière fois et je vais le répéter aujourd'hui, qu'est-ce qui entretient cette discrimination à l'égard des patients qui présentent des troubles maniaco-dépressifs ou d'autres types de troubles, c'est la peur, c'est l'ignorance, c'est la honte, c'est l'intolérance, c'est le jugement que les gens ne peuvent pas s'empêcher de porter. Et c'est sûr que si, en regard de cela, on apporte une information, on facilite l'acceptation et on donne un petit peu d'empathie et de compassion, on pourra quand même modifier le regard qu'on peut avoir par rapport à ces troubles et aux autres troubles que je mentionnais. Voilà, c'est quelques mots et puis je vais vous laisser la parole donc, pour cette séance consacrée aux questions, questions-réponses. On va essayer de vous passer les micros. Il n'y a pas une petite panne dessous. Voilà.
Je prends très rarement la parole. Bon, déjà, je m'appelle Marcos. Je suis maniaco-dépressif, comme le docteur Gay le sait. Bon, j'ai eu l'occasion de le voir deux fois. J'ai assisté à un groupe de parole, justement, qui était animé par... une de ses confrères. Cela ne m'a pas apporté énormément de choses, je le dis sincèrement, le groupe de parole. On m'entend là encore ou pas? Oui. Je crois que j'ai plus apporté qu'on ne m'a apporté à ce groupe de parole. Bon, maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que je pense que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires ne doivent pas avoir honte de prendre la parole et de le dire carrément. Bon, sinon, aujourd'hui, je me suis aperçu, tout simplement, je vais vous raconter, comme le docteur Gay le fait aussi, une petite anecdote. J'étais dans le bus, je revenais de... Allô? Je m'entends pas. Bon, je revenais de Vinizy 2, j'étais me chercher des sandalettes, là, que je vais me prendre pour l'été, là, parce que je compte pas rester ici, quoi. J'ai envie de voyager un petit peu. Moi, déjà, lundi, je pars en maison de repos. Mais j'emmène quand même du travail avec moi. Hein, parce que, énormément, je travaille maintenant. Je me suis lancé un petit peu dans l'informatique. Pour la première fois, j'ai touché un ordinateur. Ça a dû être, je sais pas...
C'est question-réponse, alors...
Oui, bon. C'est question-réponse. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut continuer. Je pense qu'Argos, je vais rentrer en contact avec eux. Sinon... j'espère que les conférences vont continuer à avoir lieu, que le docteur Gay ne va pas prendre la grosse tête, qu'il va rester humble et qu'il continuera tel qu'il est. Et je vous souhaite bonne chance.
Bonsoir. Je vais poser une question, je ne sais pas s'il a une réponse. Est-ce qu'en plus du traitement médicamenteux, la médecine chinoise peut aider dans le traitement du trouble bipolaire?
Là, je ne vais pas pouvoir vous apporter de réponse, dans la mesure où je ne suis pas du tout un spécialiste de cette médecine. Donc, je préfère dire je ne sais pas, hein, tout simplement. Voilà, c'est simple, une réponse simple. Je ne sais pas.
Alors, j'ai deux petites questions. Une première qui concerne les médicaments. Est-ce que lorsqu'on fait une association de deux médicaments, on diminue l'un et on compense le manque par l'autre? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire, si je prends du lithium et que je prends autre chose, est-ce que je garde la même quantité de lithium et est-ce que je rajoute autre chose? La deuxième question, vous vous souvenez peut-être que j'avais expliqué que j'étais venu au début des conférences parce que je voulais me renseigner sur ce qu'était la bipolarité, puisque j'étais soigné pour ça et que je n'étais pas tout à fait convaincu que le diagnostic avait été le bon. Donc j'ai lu les livres, je suis venu aux conférences, je suis allé à Créteil répondre aux questions du docteur Le Boyer, j'ai répondu aux questions de la jeune fille qui fait des tests, et je me suis aperçu qu'il y avait des milliers de questions, enfin peut-être pas, j'exagère, des centaines au moins, que l'on ne m'avait absolument jamais posées. Et donc, le doute sur le fait que la bipolarité est bien mon problème subsiste toujours. Alors, évidemment, je suis suivi par un psychiatre. J'avance des arguments, mais chaque fois que j'avance des arguments, sa réponse, même si il le fait très gentiment, c'est parce que vous êtes bipolaire que vous dites ceci. C'est parce que vous êtes bipolaire que vous dites cela. C'est parce que vous êtes bipolaire que vous voulez arrêter les médicaments. C'est parce que vous êtes bipolaire que vous parlez beaucoup et que vous expliquez ce que vous avez, pourquoi vous avez... Alors, j'ai fait des listes pour essayer de... Ah non, c'est parce que vous êtes bipolaire que vous faites des listes. Voilà, donc, au bout de presque un an, enfin, pas tout à fait, quelques mois de conférence, j'ai toujours pas de réponse. Je suis toujours pas convaincu que je suis bien soigné pour un syndrome de bipolarité. Et je prends mon traitement. Voilà.
Alors, pour répondre à la première question, donc, lorsqu'on associe deux médicaments, on n'est pas obligé de baisser l'un des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs thymorégulateurs sur la place du marché sont des associations. Hein, c'est-à-dire que c'est le fait d'associer deux thymorégulateurs, voire trois thymorégulateurs dans des situations plus difficiles. Mais on a une efficacité indiscutable, très augmenté, indiscutablement très augmenté, lorsqu'on associe, par exemple, pour ne pas les citer, du Zyprexa et du Dépakote, ou du Zyprexa et du lithium, ou du Zyprexa et du Lamictal, ou du lithium et du Lamictal. Donc il y a vraiment un phénomène, c'est un phénomène d'addition, en fait, c'est pas d'une vraie potentialisation, mais on va avoir une action plus globale, d'autant plus que aujourd'hui on a un certain nombre de thymorégulateurs qui ont des actions assez spécifiques sur certains troubles. Le lithium sera à la fois antidépresseur et antimaniaque. Le lamictal sera plus antidépresseur que le lithium dans la prévention. Il le sera moins que le lithium en ce qui concerne la prévention des manies. Hein. Il sera plus préventif des récurrences dépressives. Donc, paraît logique d'associer par exemple les deux, lithium et lamictal. La même chose pour le Zyprexa. Bon. Le problème lorsqu'on additionne deux médicaments, donc c'est sûr que dans un but de potentiel de renforcement, on va additionner les effets indésirables. Ça, c'est un problème. Et la majorité des thymorégulateurs font prendre du poids. Donc ça, c'est un réel problème. On en parle beaucoup. Et en particulier en ce qui concerne le Zyprexa, qui est un médicament qui fait prendre beaucoup plus de poids que ce qui est mentionné par le laboratoire. Et donc, dans la mesure où cette thérapeutique elle est très efficace, eh bien, il y a quand même lieu de maintenir ce traitement, mais en prenant des mesures dès le début du traitement, à savoir des mesures hygiéno-diététiques, de se mettre en rapport avec un diététicien afin de limiter ce risque qui est quand même assez important. En ce qui concerne la deuxième question, je ne peux pas malheureusement vous répondre. Vous vous interrogez sur votre trouble. Ça fait combien de temps que vous êtes suivi?
Là, ça fait
5 ans. Bon, bah vous le saurez peut-être dans 5 ans, puisqu'il faut 10 ans pour faire le diagnostic. Donc, non, il ne faut pas 10 ans pour faire le diagnostic, mais c'est vrai que les études montrent qu'il y a un retard manifeste entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic qui est posé. Qu'est-ce qui permet de faire aujourd'hui le diagnostic de troubles maniaco-dépressifs? Eh bien, par rapport déjà à une humeur normale, parce qu'on a tous une humeur qui fluctue, et heureusement, parce que la vie serait très terne, donc on a par moments des émotions qui sont fortes, on est en forme, et puis à d'autres moments, on est moins en forme. Et ça, c'est tout le monde. Et le maniaco-dépressif, c'est quelqu'un qui va présenter, bien sûr, des fluctuations d'humeur, qui sera très en forme par moments, et moins en forme à d'autres moments. Mais je dirais que ces moments de grande forme ou de méforme seront caractérisés par le fait qu'il y aura plusieurs symptômes, des symptômes qui vont être intenses, qui vont durer et qui vont être invalidants. Savoir qu'on peut très bien être triste après une séparation, par exemple, après un chagrin d'amour, ce qui est normal, mal dormir. Bon, et puis ça dépend de la sensibilité. Il y a des gens qui ne s'en remettent jamais, mais dans l'ensemble, on arrive quand même à s'en remettre. Et je dirais que la symptomatologie, dans la majorité des cas, ne va pas être très intense. Et puis vous avez des personnes donc, qui vont présenter, avec ou sans facteur déclenchant, des épisodes de durée prolongée, au cours desquels ils auront d'énormes difficultés à maintenir une activité professionnelle. Leur trouble aura des répercussions sur leur vie affective. Au bout d'un certain moment, le mari ou la femme n'en pourra plus, donc ce sera un premier divorce. Et comme ce sont des personnes très attachantes, elles vont se remarier, soit avec la même personne, soit avec une autre. Et puis ça, deux fois, trois fois, je ne sais pas combien de fois vous êtes divorcés. Mais, non, parce que ça peut être une aide au diagnostic, parce que c'est vrai que quand on voit trois mariages, par exemple, c'est à prendre en considération. Cette notion surtout de handicap, hein, et de souffrance, c'est ça qui est important et qui permet aussi de faire le diagnostic. Parce que si on ne souffre pas trop quand on est en phase d'excitation, on fait souffrir les autres. Et puis, bien sûr, qu'en phase dépressive, on souffre terriblement. On fait moins souffrir les autres, mais on souffre terriblement. Ça, c'est sûr. Donc, je dirais que c'est là-dessus qu'on peut poser le diagnostic. C'est aussi sur la nature de la symptomatologie. Il y a des symptômes qui ne sont pas mentionnés dans les bouquins, qui ne sont pas mentionnés dans les listes, dans les checklists. Par exemple, on vous a interrogé, là, on vous a screené, on a essayé de vous voir sous toutes les faces, là. Bon. Et puis... il y a des symptômes qu'on oublie et pourtant qui sont assez caractéristiques des troubles maniaco-dépressifs. Il y a premièrement, au cours des phases maniaques, il y a deux éléments qui sont assez caractéristiques. C'est la capacité à oublier. La capacité à oublier, le maniaque, il a oublié qu'il était maniaque, il a oublié ce qu'il a fait. Et il y a comme ça, dans le cours de l'épisode, des moments d'amnésie où il ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Et il y a un blanc, vraiment. Donc là, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est cette notion d'hypersensorialité. On en a parlé, on en reparle. C'est le fait de ressentir tout avec énormément d'intensité. Alors, il y a les émotions, bien sûr, mais il y a aussi les sens, la vue, le rouge est plus rouge, le bleu est plus bleu. Bon, les odeurs sont extrêmes, avec une capacité à pouvoir distinguer avec beaucoup plus de finesse deux odeurs très, très proches. Avec une hyperacuité auditive, une hypersensibilité au bruit, avec aussi un goût qui est très développé, un sens du toucher aussi qui est assez particulier. Donc ça, cette notion, elle est assez caractéristique des personnes qui sont en phase maniaque. Et c'est sûr qu'on ne pose pas ces questions. On va poser des questions sur les dépenses excessives, sur l'hypersexualité, sur le manque de sommeil, sur la désinhibition, sur parfois des propos un petit peu provocateurs, sur des préoccupations religieuses anormales, sur une facilité de contact inhabituelle. Bon. Mais on n'abordera pas ces deux aspects qui sont assez quand même caractéristiques. Et puis, bien sûr, il y a le problème de l'alcoolisation et puis de la consommation de toxiques. Et puis, au cours des phases dépressives, il y a d'autres éléments qui sont à prendre en considération. C'est sûr que dans la dépression, on est triste, on est ralenti, on est fatigué, on a une perte d'estime de soi, on a du mal à se concentrer, on a du mal à fixer son attention, on a du mal à mémoriser, on a des sentiments de culpabilité, de dévalorisation, d'inutilité, on est dans la capacité de se projeter dans le futur, on est pessimiste, on a une vision globale très négative. Et je dirais qu'il y a d'autres éléments qui sont assez intéressants, c'est qu'il y a surtout cette notion de peur. On a peur de tout. Tout est problème et on a peur de tout. Et le déprimé se noie dans une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une très mauvaise perception de la réalité, une dramatisation. Et ça va plus loin que le pessimisme. Parce que d'un côté, il y a le pessimisme, mais il y a cette notion de peur de tout. On a peur de tout. Et puis un autre élément aussi qui est assez caractéristique des bipolaires, et là encore, ce n'est pas dans les manuels, et c'est plus dans les périodes intermédiaires, lorsque vous n'êtes ni déprimé ni maniaque, c'est que le bipolaire est quelqu'un qui s'ennuie. Il s'ennuie parce qu'il est monté tellement haut, il a vécu de telles choses, que lorsqu'il est dans un état normothymique, eh bien, des choses ont perdu leur il a de leur saveur, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est, il est un petit peu, ils se sont un petit peu anesthésiés, d'autant plus que le traitement pourra l'anesthésier. Donc il y a vraiment ce sentiment d'ennui. D'ennui, il subit ce qui se passe, il n'est pas déprimé. C'est vrai que le déprimé a une attitude très passive par rapport aux choses, mais là, il s'ennuie. Il s'ennuie et très souvent, il attend de se retrouver en phase maniaque pour revivre. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez caractéristique des maniaco-dépressifs et qui s'explique donc par la nostalgie de ces phases d'excitation maniaque. Et je dirais que dans les prises en charge psychologiques, les groupes de parole qui ne vous ont pas servi à grand-chose, mais qui peuvent servir à d'autres quand même, puis ça dépend comment c'est fait, mais il n'y a pas de règle absolue. Hein. Bon. Oui, non, mais vous avez raison, hein, on est là pour parler librement. Non, mais c'est important. C'est que d'essayer d'apprendre la personne à accepter le fait de ne pas être en permanence Jésus-Christ ou un surhomme ou voilà. Et ça, c'est champion du monde ou champion de France, ça dépend des formes. Vous avez des formes mineures où on est champion de France et puis des formes majeures, on est champion du monde. Et donc Ça dépend. C'est toujours par rapport à cette notion de souffrance, d'handicap. Et puis, parce qu'il y a des personnalités. Moi, aujourd'hui, j'ai vu une patiente qui venait me voir. Elle venait me voir pour savoir si elle était bipolaire. Bon. Et elle avait fait une dépression il y a 3 ans. C'est quelqu'un qui occupait une fonction importante dans une industrie pharmaceutique. Enfin, elle était acheteuse dans un groupe. Et elle me disait, est-ce que je suis bipolaire? Et c'est vrai que sa vie n'avait rien de la bipolarité. C'était une femme qui était dynamique, joyeuse, facile de contact, positive, qui ne voyait jamais de mal nulle part, qui avait fait un épisode dépressif dans un contexte de surmenage. Et c'est vrai qu'il y avait, une caricature, enfin je dirais pas une caricature, mais c'était très caricatural, c'est-à-dire qu'il y avait, ce fond de positivisme, entre guillemets, et puis tout d'un coup, une dépression où elle est hospitalisée. Elle est en retrait, elle a perdu goût à tout. Il y a un désintérêt qui est global, il y a une fatigue, il y a des troubles du sommeil. Et puis après, elle est remontée. Et puis elle a retrouvé cette joie de vivre sans se plaindre, bon, ayant 57 ans, n'ayant jamais été mariée, mais ayant toujours une vie sociale. Et elle aurait très bien pu adopter une attitude plutôt plaintive, en disant, écoutez, j'ai 57 ans, ma vie est loupée, j'ai pas d'enfant, je suis toute seule et tout ça. Ben non, pas du tout. C'est une femme qui a un excellent contact, qui est positive. Elle n'est pas bipolaire. Elle n'est pas bipolaire. Et donc, je dirais que le diagnostic de bipolarité se fait principalement à partir de cette notion d'handicap, de souffrance, et puis aussi certains symptômes qui sont caractéristiques. Le bipolaire se met très souvent en péril. Alors, il se met en péril, bien sûr, dans les phases dépressives, le bipolaire de type 2. Et puis, vous avez le bipolaire de type 1 qui se met en péril quand il est en phase d'excitation maniaque. Et parce que il peut faire n'importe quoi et sans véritablement être capable d'anticiper les risques, le danger. Voilà. Pour résumer un petit peu le diagnostic, mais ce n'est pas un diagnostic qu'on va faire par la biologie, ça c'est sûr. C'est un diagnostic qui reste clinique. Très souvent, c'est l'entourage qui fait le diagnostic. Parce que c'est sûr que quand on est en phase d'excitation maniaque, c'est difficile de reconnaître son état d'excitation maniaque. On est en forme, on a le meilleur médecin de la Terre, et grâce à lui, on est très en forme. En règle générale, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a le plus mauvais médecin de la Terre. Je plaisante là, mais c'est des choses qui nous sont dites très, très souvent. Et c'est vrai que le patient qui vient nous voir et qui nous remercie parce qu'il va très, très bien et qui nous amène un très beau cadeau, là, on s'inquiète vraiment. Et quand il nous dit qu'on est le meilleur, on s'interroge vraiment sur ses capacités. Voilà, donc...
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai lu votre livre, c'est comme ça que j'ai connu Argos, et je vous en remercie, c'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis de Normandie, et là, bon, on a des échos, disons, plus lointains. Actuellement, si vous voulez, j'ai un mari qui est bipolaire, qui est soigné sous lithium depuis 25 ans, une belle-mère qui était bipolaire également, et dont les parents, ça je ne sais pas, je ne les ai pas connus, on n'a jamais parlé de ça, mais enfin qui se sont suicidés tous les deux. Actuellement, j'ai 2 filles, dont une, disons, qui était un petit peu dépressive de temps en temps, qui avait des moments d'humeur, si vous voulez, mais bon, seulement dépressive, sans être soignée. Hein. Qu'on réussissait toujours à pousser un petit peu, ça repartait, ça allait. Et puis, dernièrement, bon, ça a été un petit peu plus mal, et suite à une drogue, qui est le haschich, elle est rentrée en hypomanie. Est-ce que c'est la drogue ou est-ce que c'est Stablon? Parce que finalement, on était passé à un antidépresseur Stablon. Ensuite, on a changé, on est passé à Zoloft avec dopamine. Ça ne va toujours pas. Et maintenant, on lui propose Effexor et Dépakote. Alors, bon, je suis la mère, je suis un petit peu inquiète et j'aimerais trouver, disons, le traitement qui conviendrait. Et puis, d'abord, à savoir, est-ce qu'elle est réellement bipolaire ou pas. Et je pense aussi qu'on ne peut pas la traiter au lithium, déjà parce que c'est une femme et c'est une jeune fille qui a 23 ans. Voilà un petit peu mes questions et on est un petit peu perdu.
Alors là, vous soulevez, hein, vous soulevez ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce problème de multidéterminisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a probablement une vulnérabilité génétique, hein, si on reprend un peu votre histoire, mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de gène, hein, de la maladie, il y a des gènes de vulnérabilité associés qui font qu'il y a ce terrain. Il y a ce terrain, comme il peut y avoir un terrain pour les cancéreux, il peut y avoir un terrain pour ceux qui vont attraper la grippe, il y a un terrain pour les tuberculeux, il y a un terrain pour les diabétiques. Cette notion de terrain. Bon. Mais ce n'est pas. Il n'y a pas de gènes qui vont être transmis comme ça. C'est la coexistence de plusieurs gènes. L'environnement. Bon, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, votre fille. Peut-être qu'elle a été victime aussi de traumatismes qui sont passés inaperçus, qui l'ont fragilisée. Il y a l'antidépresseur qui, chez quelqu'un qui est vulnérabilisé, fragilisé, eh bien, l'antidépresseur va pouvoir, je dirais, mettre en avance. Cette bipolarité, enfin la dévoiler, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces 60% de bipolaires potentiels chez les déprimés. Donc ce qui on se dit que le Stablon a pu faciliter un virage de l'humeur, comme les corticoïdes peuvent faciliter aussi un virage de l'humeur, comme certains antipaludéens de synthèse peuvent aussi provoquer des virages de l'humeur. Et puis, bien sûr, il y a la prise de cannabis, qui est aussi un facteur qui est très souvent retrouvé dans des virages de l'humeur. Et on a banalisé le cannabis. Or, en psychiatrie, on ne peut pas le banaliser, parce que c'est quand même une substance qui est capable de provoquer ou de faciliter ou de déclencher ou d'accélérer un processus, qu'il soit schizophrénique ou processus maniaco-dépressif. Hein. Donc ça, on a quand même pas mal de données sur ce point. Et c'est vrai que le cannabis, c'est quand même une drogue très pernicieuse. Quand je dis qu'elle est pernicieuse, c'est qu'elle elle agit, j'irais, de manière insidieuse, parce que celui qui prend du cannabis va toujours tenir le même discours. Il est capable d'arrêter demain. Et il n'est pas dépendant de cette substance. Il n'empêche que tous ceux qui consomment régulièrement du cannabis ne peuvent pas arrêter demain, et il y a un phénomène de dépendance psychologique qui est très important et qui est un problème d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de véritable moyen pour traiter les toxicomanies au cannabis, hein, les dépendances au cannabis. Les moyens thérapeutiques sont très limités. Alors si c'est une fois, c'est moins grave, mais c'est vrai que Bon, écoutez, c'est très bien, c'est positif, c'est merveilleux. Et puis vous arrivez à l'âge de maturité en plus, donc. Bon, non, alors il y a le problème des traitements, donc le problème du H qui peut aussi, même une fois, peut provoquer une déstabilisation, parce que ça peut provoquer, ça peut être vécu comme un stress par la dépersonnalisation que ça peut provoquer, par une recrudescence de l'anxiété. Bon. Et puis en ce qui concerne le traitement, là, c'est très difficile de vous répondre, parce que on a différentes stratégies thérapeutiques qui sont proposées. C'est vrai qu'on essaye d'éviter d'utiliser les antidépresseurs parce que ça fait monter. Cela dit, si elle est déprimée, c'est justifié de maintenir un traitement antidépresseur et d'associer un thymorégulateur pour prévenir un nouvel épisode. Le dépakote, qu'est-ce qu'il présente comme avantage par rapport au dépamide? Eh bien, il sera peut-être mieux toléré, moins sédatif, c'est ce qu'on peut dire. Mais il faut savoir que le dépamide se transforme en dépakote, ou à peu près l'équivalent, hein, puisque c'est un produit mère qui, lorsqu'il est métabolisé dans l'organisme, va se transformer en dépakote. Alors, concernant les antidépresseurs, je dirais que il n'y a pas de bons et de mauvais antidépresseurs. Je dirais que tous les antidépresseurs qui sont aujourd'hui commercialisés ont fait la preuve de leur efficacité. Ce sont des médicaments qui sont potentiellement efficaces, mais il est certain qu'il y a des sujets qui répondent mieux à certains que d'autres. Et là, c'est vrai que c'est à chaque fois, c'est le tâtonnement qui permet de se faire la minorité. Ah si, il y a une différence notable dans la mesure où le Zoloft est un médicament qui va agir spécifiquement sur une substance qui s'appelle la sérotonine, et l'Effexor va agir, je dirais de manière un petit peu plus globale, sur la sérotonine et sur la noradrénaline. Hein, il agit sur les deux neuromédiateurs. Et puis, il y a des études qui ont montré que l'Effexor était très efficace dans les formes graves de dépression chez des patients qui ont été hospitalisés. Et ça a permis à l'Effexor d'obtenir un niveau 2 d'indication que le Zoloft n'a pas. Et l'Effexor a aussi un niveau 3 qui est la prévention des récidives dépressives lorsqu'il est utilisé au long cours.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ma mère est donc malade depuis une dizaine d'années. Le diagnostic a été posé l'année dernière à Sainte-Anne, donc diagnostic bipolaire. Moi, la question que je voulais poser ce soir, c'est que il nous arrive, elle passe de cycles dépressifs à des cycles maniaques. Et alors, elle a un cycle. Quand elle est en cycle maniaque, elle devient très difficilement supportable pour tout son entourage. Nous avons des enfants. Elle a des petits enfants donc en bas âge, et donc nous sommes parfois tentés de prendre une certaine distance, alors que, en règle générale, nous avons une vie de famille très très proche. Pour autant, elle n'est pas dangereuse, on ne la ressent pas dangereuse pour autrui. Et donc on se retrouve, on le voit tout de suite dans ses yeux qu'elle est dans cette phase maniaque. Et on ne sait pas si on doit attendre qu'elle en arrive à un stade peut-être de violence physique, ou si on doit réagir immédiatement. Il faut savoir qu'elle est suivie par un psychiatre dans un dispensaire dans le 15e, et que ce monsieur nous tient un discours en disant « Moi, j'ai un contact, j'arrive tout juste à avoir un contact, à établir un contact avec votre mère, et à plus ou moins la convaincre de suivre le traitement, bon an, mal an. » Enfin, on n'y voit pas très clair, parce qu'elle nous raconte ce qu'elle veut bien nous raconter. Et on a souvent du mal à savoir à trier le vrai de ce qu'elle peut imaginer. Donc voilà, là, la question vraiment, c'est est-ce qu'il faut réagir dès lors qu'on sent qu'elle est en train de passer en phase maniaque, ou est-ce qu'il faut attendre d'arriver dans des extrêmes un peu...
La question que vous soulevez, je pense que c'est une question qui intéresse tout le monde, parce qu'on se retrouve tous confrontés à ce problème. Autant conjoints que médecins. Hein, et savoir quand intervenir, comment sensibiliser la personne, ça c'est un énorme problème. Et c'est vrai que j'ai vu en consultation à 3 reprises un médecin qui est maniaco-dépressif. Bon. Et ce médecin, il se trouve tout à fait normal. Il est tout à fait normal, il n'a pas besoin de traitement, il contrôle très bien, il dort 7 heures par nuit. Bon. Et donc je l'ai reçu avec son épouse à 2 reprises, je l'ai vu seul une fois. Et il est hors de question de prendre un traitement. Il s'est réfugié dans la religion. Tout se passe très bien pour lui et il n'y a pas de problème. Bon. Et son épouse avait mal vécu cet entretien parce que j'ai rien pu dire. Hein, j'ai rien pu dire. Je ne pouvais pas le forcer à prendre un traitement dans la mesure où il refusait et que là, il était dans un état, je dirais, de demi-normalité. Bon, d'un médecin du travail. J'ai son épouse qui m'a rappelé il y a 4 jours pour me dire écoutez, il va très très mal. Et puis je me suis fait agresser par l'épouse, hein, parce qu'elle me considérait comme responsable de son état et j'en ai pris plein la figure. Et donc je rappelle le médecin en lui disant écoutez, voilà, j'aimerais bien, peut-être ce serait bien qu'on se revoie parce que actuellement vous avez peut-être des difficultés. Non, ça va très bien. Écoutez, là je suis en train de rédiger un document sur la responsabilité du médecin du travail, c'est très important, et puis il y a tout un travail à faire sur le harcèlement, et c'est très important aussi. Bon. Et là-dessus, l'épouse me rappelle en me disant, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire il faut l'hospitaliser à tout prix, vous êtes bien avec tel service, vous pouvez peut-être le faire hospitaliser. Là-dessus, il me rappelle, et puis, beaucoup plus calme, et il me dit, est-ce que je peux vous parler maintenant? Parce que là, tout à l'heure, j'étais un petit peu énervé, et puis j'étais un peu stimulé par mon travail. Et donc, on a renoué un contact, et puis je devrais le voir dans les jours à venir. Bon. Mais ça ne va pas résoudre le problème, parce qu'il est opposé à prendre un traitement, il se considère comme normal, et il est hors de question de l'hospitaliser. On ne peut hospitaliser que quelqu'un qui est d'accord, sauf lorsqu'il est dangereux, à ce moment-là, c'est l'HDT ou la CHO. Vous êtes d'accord? Donc là, si votre mère est dans un état de semi-normalité, hein, bon, pour reprendre l'expression que j'avais donnée tout à l'heure, eh bien, c'est sûr que s'il y a déjà quand même un lien qui est de pas trop mauvaise qualité avec le psychiatre qui la suit dans un dispensaire, c'est déjà pas mal. Et s'il arrive à lui faire prendre un traitement, mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. Et ça peut démarrer tout d'un coup, c'est-à-dire que ça peut s'enflammer. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est que le maniaque est quelqu'un qui est peu dangereux. Bon, il n'y a pas de dangerosité. Autant quand on se retrouve face à quelqu'un qui est déprimé, eh bien, il faut vraiment intervenir en urgence parce que là, il y a toujours le risque de suicide qui est au premier plan. Et donc là, c'est vrai qu'on ne peut pas, différer. Ben avec le maniaque, on fait de la navigation à vue, c'est-à-dire qu'on voit comment les choses évoluent, et puis il arrive un moment, et Madame Chénermont, on sait quelque chose, il arrive un moment où ce n'est plus gérable, c'est-à-dire que ce n'est plus contrôlable, et malheureusement, là, il est dans un tel état d'opposition que très souvent, c'est la force publique qui intervient pour prêter main forte. Alors c'est vrai que c'est traumatisant, c'est l'extrême, mais c'est le problème, c'est l'énorme problème, c'est déjà le problème numéro un, c'est de faire accepter un maniaco-dépressif qu'il est maniaco-dépressif, déjà. Et ça, c'est un problème qui est majeur. Et à côté de ce problème, c'est lorsque un maniaco-dépressif, même s'il sait qu'il est maniaco-dépressif, lorsqu'il est en phase d'excitation, c'est d'arriver à le récupérer. Et ça, c'est un exercice de style. C'est un exercice de style parce que, bon, soit on a un excellent contact avec lui et il nous fait confiance, et ça ne pose pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe lorsqu'on a des patients qui sont suivis depuis 10 ans, 15 ans, avec lesquels on a quasiment des relations amicales. Bon. Et lorsque la relation, elle est superficielle, c'est sûr qu'on ne va pas avoir cet impact. Et ça va être beaucoup plus difficile. Et ça, je ne peux pas répondre parce que c'est le problème qu'on a tous les jours. Et je pense qu'ici, vous avez tous été confrontés à ces situations, comment faire pour le faire, lui faire accepter qu'il est malade. Alors, c'est la lecture de documents et tout ça, mais quand on est maniaque, on n'a pas envie de lire des livres, et puis un reportage à la télévision, ça ne présente strictement aucun intérêt, et puis on peut essayer de le filouter en lui montrant, par exemple, Mr. John, le film avec Richard Gere. Il va rire, peut-être, mais il ne va pas se reconnaître dans l'autre. Et ça, c'est un travail très, très difficile. Donc, ce que j'ai toujours dit au cours des réunions, c'est qu'un maniaque, c'est très facile à traiter. C'est-à-dire que le traitement d'un état, d'un état maniaque peut se faire en quelques jours. La difficulté, c'est d'attraper le maniaque. C'est la difficulté, hein, c'est de l'attraper. À partir du moment où l'attraper, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le maniaque, il fugue. Il a besoin de liberté. Et ça nous est tous arrivé, comme ça, de suivre des itinéraires complètement fous de maniaques qui avaient quitté le milieu familial. Je vais raconter l'histoire d'un de mes amis, et pas de mes patients, de mes amis qui est maniaco-dépressif et qui avait quitté, comme ça, le milieu familial pour aller vivre une histoire d'amour. Bon. Et il était en plein état maniaque, avec des éléments un peu persécutifs. Il m'appelait tous les jours et je n'avais aucune prise sur lui, aucune. Parce qu'il refusait de venir me voir à mon cabinet de peur que je lui tende un piège et que je l'embarque. Parce qu'il savait quand même qu'il était un peu au-dessus, mais il se méfiait. Et il s'est installé d'abord à Fontainebleau, ensuite il est revenu sur Paris et il a trouvé un hôtel qui était à 50 mètres de mon cabinet. Et là, on s'est vu tous les jours, mais à l'extérieur, au restaurant, parce qu'il avait peur. Et puis il arrivait un moment où la tension était tellement intense qu'il m'a appelé et qu'il t'a dit, viens me chercher pour me conduire à l'hôpital. Ça, c'est le meilleur des cas. Hein, c'est le meilleur des cas. Mais c'est vrai que quand quelqu'un vit son histoire, vit une histoire amoureuse, est en phase d'excitation et tout ça, la prise est très difficile sur lui, très très difficile. Et donc il a cette besoin de liberté, ce qui fait qu'il va partir. Alors, le cas de votre maman est un petit peu dit. Alors là, votre intervention, merci, parce que ça prouve déjà quand même que vous êtes sensibilisé. Vous êtes sensibilisé, et c'est vrai que celui qui est en manie n'est pas dangereux, mais se met en péril. Je l'avais dit tout à l'heure, et c'est vrai que par rapport à une carrière professionnelle, être maniaque, que ce soit dans un hôpital, ou que ce soit dans une société, ou que ce soit au palais de justice, ça laisse des traces indélébiles, c'est-à-dire que on va rester toujours avec l'étiquette. Bon. Et voilà. Alors c'est vraiment ce travail de sensibilisation. Vous êtes à la recherche de ces symptômes qui peuvent inquiéter. Alors comment on fait? Comment on s'y prend? Eh bien, il y a premièrement l'information des familles et l'information, savoir quels sont les symptômes qui vont être annonciateurs de la rechute. Le symptôme numéro un, c'est l'insomnie. C'est l'insomnie. À partir du moment où il y a une réduction du temps de sommeil, on est dedans. On est vraiment dedans. Si la personne arrive à dormir, il y a un sursis. Il y a vraiment un sursis. Ensuite, il y a d'autres symptômes assez caractéristiques, comme des préoccupations inhabituelles, le plus souvent religieuses, comme des dépenses excessives, comme une facilité de contact, comme le fait de beaucoup parler, beaucoup écrire, donc les multiples projets. Et puis savoir que chaque personne peut avoir son propre signal symptôme. J'en avais parlé lorsque j'avais fait la description d'un état maniaque. J'ai un de mes patients qui, à chaque épisode, je vous l'ai raconté 15 fois, sort son saxo et son chapeau. Bon. Et c'est systématique. C'est systématique. Et il sait aujourd'hui que c'est un signal symptôme. Et quand il vient me voir, alors qu'il est en phase de subexcitation, il pourrait très bien ne pas venir avec le saxo, se disant, tiens, je vais... Mais il amène son saxo de peur que je ne vois pas qu'il est en état d'excitation, parce que là, à ce moment-là, il réclame l'hospitalisation. Mais il est sensibilisé, il reconnaît. Et puis, il y a des diagrammes. Le diagramme de Post, qui est un diagramme où, tous les jours, on note le nombre d'heures de sommeil. On essaye d'évaluer son humeur en la cotant de moins 10 à plus 10. Et en se suivant comme ça, jour par jour, et en mentionnant aussi sur ce diagramme les événements de vie qui ont pu favoriser un virage de l'humeur. Ça, c'est quelque chose qui permet d'assurer aussi un meilleur suivi. Vous pouvez le faire aussi en collaboration avec vos proches. Mais déjà, lorsque vous faites cette démarche, vous êtes sensibilisé. C'est-à-dire que votre intervention, elle montre que vous êtes concerné par le problème et vous, votre préoccupation, c'est de ne pas retomber dans un état d'excitation et de pouvoir être aidé par les proches qui vous signale d'emblée, attention, tu es en train de virer. Le problème, c'est que ce type de réaction existe, mais lorsqu'on connaît bien son trouble et lorsqu'on a fait les frais de plusieurs hospitalisations, et malheureusement, quand il y a eu plusieurs hospitalisations, il y a eu ce risque de désinsertion, de perte d'emploi qui est majeur. Donc, problème majeur. Alors, traitement préventif, bien sûr, mais c'est toujours délicat parce qu'on peut toujours se mettre en rapport avec la famille et puis dire, bah, tiens, vous allez verser un petit peu d'aldol dans sa soupe. Bon, c'est des choses qu'on peut faire. C'est des choses qu'on peut faire. Il y a toujours cette possibilité. Moi, j'avais une personne comme ça dans mon entourage qui donnait 400 gouttes d'aldol à son mari pour le calmer à son insu. Bon. Mais éthiquement, c'est difficile, ça pose des problèmes. On ne sait pas quelles peuvent être les réactions du sujet à ce traitement. Donc là, ça pose un problème. Jean-Alain Génermont veut prendre la parole et Jean-Alain Génermont est très souvent concerné par ce problème. Mais ce n'est pas enregistré, c'est ça le problème. Jean-Alain, je t'arrête tout de suite parce que il y a des secteurs qui font ça. Et le groupe Eric en particulier, à Charcot, qui permet, donc qui assure un suivi en ambulatoire. Et l'objectif, c'est de pouvoir éviter des hospitalisations. Et le travail que fait ce groupe est fantastique. Mais comment le généraliser? Comment le généraliser? Parce qu'il faut... Voilà. C'est à Charcot, c'est au Muro.
Il est débattu actuellement à l'Assemblée nationale. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été désignée pour le faire. On attend, on va voir ce qui va en sortir. Mais sachez qu'il y a quand même une association dont je fais la publicité, qui s'appelle la FNAPSI, qui œuvre là-dessus depuis des années, mais on est très bon nombreux à tirer cette charrette. Voilà.
Oui, cela dit, ça ne va pas résoudre le problème. On n'est pas là pour faire de la politique et pour souligner les difficultés de prise en charge, mais c'est vrai qu'il y a un problème de disponibilité, il y a un problème de... Quand vous prenez un rendez-vous dans un dispensaire et qu'on ne peut pas vous donner de rendez-vous avant un mois, quand vous allez à Sainte-Anne et que vous demandez un rendez-vous et qu'on ne peut pas vous donner de rendez-vous avant 6 mois, c'est problématique. Il y a un problème aujourd'hui en ce qui concerne la mise en place du suivi, parce qu'il y a un manque, de personnel, il y a des structures qui ferment par défaut de personnel. Donc je dirais qu'on n'est pas dans la période idéale pour arriver à un changement. Il faut déjà qu'il y ait un petit peu plus de psychiatres, d'infirmiers, pour pouvoir arriver à mettre sur pied...
Le médecin va lui répondre,
Non, non, non. Non, non, parce que là, c'est aussi... Non, non, là, je crois qu'il y a... Non, non, c'est que on ne peut pas laisser quelqu'un sans soins, et c'est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que c'est le conjoint qui pourra avertir le... Non, 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 c'est le conjoint qui va très souvent... Oui, mais Jean-Alain, pour répondre à ta question, il faut que le diagnostic ait été posé déjà, il faut qu'il y ait déjà une prise en charge, il faut savoir de quoi on parle. C'est ça le problème. Il faut que la personne soit sensibilisée. Or, quand la personne n'est pas sensibilisée, quand on se retrouve face à quelqu'un qui a une personnalité un petit peu rebelle et qui est dans l'opposition systématique et qui refuse d'entendre les conseils de ses copains en lui disant « tu devrais augmenter le Zyprexa parce que ça ira mieux », C'est là où on se dit que ça ne dépend pas que d'une modification de la loi, ça dépend beaucoup de la personne, de sa personnalité, de la force de conviction de l'entourage, et puis des formes évolutives, et puis de plein de choses. Tout ça pour dire que ce n'est pas simple. Madame.